Bonjour, je m'appelle Laura, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et d'une petite fille de 2 ans. L'autre jour, mon fils a invité un copain à la maison. Il était très impatient, très excité. Et à partir du moment où le copain est arrivé, il s'est totalement braqué. Il a refusé de jouer avec lui, de lui prêter ses jouets. Il n'a pas voulu le laisser rentrer dans sa chambre. J'ai tenté de le raisonner, tenté de comprendre, j'ai cherché un compromis, j'ai négocié. Rien n'y a fait. J'étais à court d'arguments, gênée vis-à-vis du petit copain qui s'impatientait, embarrassée pour mon fils qui ne se montrait vraiment pas sous son meilleur jour. Et malgré toute ma bonne volonté, j'ai craqué. J'ai pas pu éviter le chantage, la menace et la colère. On fait comment en fin de journée pour pas craquer ?
Va dans ta chambre, tais-toi, fais pas ça. Arrêtez les injonctions, ne plus crier sur nos enfants. On nous dit que la solution serait de mettre en place la fameuse éducation positive. Le mot bienveillant, c'est partout, ça nous met la pression et on culpabilise. Je suis Dorothée Saada, une maman curieuse, et pour parents, je cherche comment on fait chez les autres pour trouver des solutions. Moi aussi, avec mes enfants, j'ai du mal à rester zen et bienveillante 24 heures sur 24. Alors pourquoi c'est si difficile et comment y arriver ? J'essaie de chercher des clés et les appliquer à la maison, mais c'est pas tous les jours facile. Pour m'aider à rester zen, il me fallait une maman épanouie, spécialiste en éducation bienveillante. Elle s'appelle Charlotte Ducharme. Elle est spécialiste en parentalité positive et créatrice de l'entreprise en coaching parental Cool Parents Make Happy Kids. On l'a choisie non seulement pour comprendre la théorie de cette éducation, mais aussi pour ses astuces concrètes à appliquer au quotidien. Avec elle, je vais vous aider à faire le tri entre ce qui est vraiment important et ce qui n'est pas forcément. Bonjour Charlotte Ducharme.
Bonjour Dorothée.
Il faut que tout le monde comprenne de quoi on parle. C'est quoi exactement la parentalité positive ?
Alors, c'est très très vaste la parentalité positive. Pour moi, c'est d'essayer, donc déjà essayer, d'être moins dans le rapport de force avec notre enfant. C'est-à-dire ne pas se positionner en adulte qui est au-dessus de l'enfant et l'enfant doit faire ce qu'on lui demande, mais plutôt de respecter notre enfant comme on aimerait qu'il respecte les autres. Puisqu'en fait, à la base, notre enfant apprend avant tout par imitation. Donc, il va apprendre de la façon dont on se comporte avec lui. Donc, essayer de se comporter avec notre enfant comme on aimerait qu'il se comporte avec les autres.
En quoi ça diffère d'un autre style d'éducation, en fait ? Pourquoi est-ce que c'est estampillé éducation positive différent des autres styles d'éducation ?
Alors, tout le monde dit éducation positive, ça ne veut pas dire, du tout dire que les autres éducations sont négatives.
Oui, hein. C'est ça.
Et aussi, on ne peut pas toujours se dire « Ah bah toi, tu es dans l'éducation positive, toi, tu ne l'es pas. » Enfin, voilà, tout le monde fait aussi avec son style parental. On ne va pas toujours être toujours positif, toujours parfait. Ça, c'est pas possible. Mais, par exemple, je dis n'importe quoi, dans une éducation plutôt traditionnelle, on va... je sais pas, l'enfant ne mange pas, par exemple, finit pas son assiette. Bon, là, voilà, c'est un peu de l'extrême, mais finit pas son assiette. Bon, j'en ai marre, tu finis pas ton assiette, tu vas dans ta chambre. Bon, si on était adulte, si on transpose et que mon mari ne finit pas son assiette parce qu'il n'aime pas trop, le plat que je lui ai fait, et je lui dis, tu vas dans ta chambre, c'est un peu bizarre. Et il trouverait ça, si je le prends et que je le mets dans sa chambre, il trouverait que ce serait vraiment un manque de respect envers lui.
Donc c'est ne plus passer en fait par la punition,
par
ce qu'on appelle
force.
Ces fameuses violences éducatives ordinaires.
Voilà, punition, menace, rabaissement, cri, pince, coin, etc. Chose qu'on n'utilise pas forcément avec d'autres personnes ou en entreprise. C'est un peu ça aussi un peu pareil. Donc pourquoi est-ce qu'on les utilise avec nos enfants ? Bon, parce qu'ils ne font pas tout à fait ce qu'on leur demande, contrairement à des adultes peut-être. Mais c'est d'essayer de passer par un rapport plus respectueux de l'enfant.
Alors, tu es maman de 3 enfants.
Oui !
7, 5 ans et
2 mois.
2 mois, un tout petit. Tu as quitté ton travail ?
Exactement.
Pour fonder donc cette entreprise Cool Parents Make Happy Kids, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach en parentalité positive dans ta vie ?
Alors en fait, quand j'ai eu mes enfants, j'avais des convictions depuis toute petite, c'est-à-dire que j'avais pas très bien vécu l'éducation que moi j'avais reçue.
Ah, ok.
Donc, j'ai retrouvé d'ailleurs dernièrement des cahiers que j'écrivais quand j'étais petite avec comment moi j'éduquerais mes enfants. Mes convictions n'ont pas changé d'ailleurs, c'est assez drôle. Ce que je disais dans ces cahiers, c'est limite des articles que j'ai écrits aujourd'hui. Et donc, je voulais clairement faire différemment. Et quand je suis devenue adulte, je me suis rendue compte que l'éducation plutôt traditionnelle que j'avais reçue était très répandue. Et qu'en fait, il y avait plein de parents qui se comportaient de cette manière-là avec leurs enfants. Et je trouvais ça assez fou parce que pour moi, c'était. On se comportait à l'inverse de ce qu'on souhaitait inculquer à notre enfant. Le respect, la bienveillance, etc. Et en fait, on ne faisait pas ça avec lui. Donc, j'ai commencé à lire deux livres. Tout se joue avant 6 ans et un livre de Dolto. Et j'avais l'impression qu'on avait plus de bouquins de cuisine chez nous que de bouquins d'éducation. Et j'avais envie de démocratiser ça, donner envie aux parents de s'y intéresser et pas être le parent qui lit en cachette dans le métro, se faire obéir sans crier, en ayant un peu honte du truc.
Honte qu'on regarde, ouais.
Mais démocratiser le truc en disant, voilà, c'est s'y intéresser parce qu'on a envie d'avoir une meilleure relation avec notre enfant, d'offrir un environnement encore plus épanouissant à nos enfants.
C'est très intéressant parce que ça veut dire que si on vient d'une éducation plus traditionnelle comme toi, qui était donc peut-être plus punitive, on peut sortir de ce schéma et appliquer donc la parentalité positive.
Alors, ce qui est génial, c'est que, quelle que soit notre enfance, on peut tous évoluer. Et souvent, on se dit, mais non, mais moi, c'est sûr, je suis en colère, je suis quelqu'un qui se met en colère, et c'est ma nature, et c'est comme ça. Non, en fait, pas du tout. Personne n'est colérique de nature. Il se trouve qu'on a eu une image de nous, une enfance, des croyances qui font qu'on se met en colère. C'est-à-dire, c'est une émotion que tout le monde a. Mais on peut clairement évoluer. C'est pas facile.
Hein, non, c'est pas facile.
C'est pas facile, surtout qu'on ne part pas tous du même endroit. On peut évoluer. Et ce qui est génial, c'est que nous, on va faire mieux que nos parents et nos enfants feront mieux que nous. Et comme ça, toute notre lignée familiale va évoluer.
Alors, moi, j'ai une anecdote justement à te soumettre. Donc, je suis maman de deux garçons. Assez sportif, on va dire.
Et
ils ont 12 et 6 ans. Donc le petit, tous les mercredis, il a un cours d'art martial. Et à chaque fois que je vais le chercher, à la fin du cours, il ne veut pas sortir du vestiaire. Parce que ça l'excite énormément ce cours. Il adore, il est très content et il continue à faire des petits combats avec ses copains dans le vestiaire. Et je lui dis, maintenant on met les chaussures, on met le manteau, on s'en va, on y va. Et il ne m'entend pas. Il continue, il crie, il court, etc. Et donc, j'essaye, parce que moi, j'essaye aussi de mettre en pratique la parentalité positive. Et puis là, le dernier cours, la semaine dernière, j'avoue qu'au bout d'un quart d'heure où il ne m'entendait pas et il continuait à se rouler par terre, à faire le zozo, et que les autres parents me regardaient, je sentais le regard des autres parents sur moi.
C'est encore plus dur.
J'ai senti l'agacement quoi, qui montait, l'énervement, et j'ai crié. Et j'ai dit, maintenant ça suffit, tu mets tes chaussures et on sort.
Ok.
Et comment j'aurais dû faire ?
Alors, bon, déjà, ça arrive à tout le monde de crier.
Oui.
je pense que ça dépend des natures des personnes aussi, mais globalement, on ne va jamais être tout le temps parfait, quoi. Hein, donc, il n'y a pas de problème.
Déjà, ça soulage.
Donc, ça arrive très fréquemment. On part d'un anniversaire. C'est pareil, l'enfant ne veut pas partir de l'anniversaire ou du parc, etc. Alors, il n'y a pas une bonne façon de faire. Moi, personnellement, que ce soit un anniversaire ou le cours, etc., comme je ne suis pas forcément pressé, sauf si on prend un train ou je sais pas quoi, je suis au même rythme que les autres enfants. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de partir d'un anniversaire ou d'un cours de judo en premier, quand tous les enfants sont encore dans le vestiaire ou tous les enfants sont encore à l'anniversaire, que de partir en même temps que les autres parents, les copains, etc. Donc il y a un moment où il n'y a plus personne dans le vestiaire. Enfin, il y a un moment où ses copains ne sont pas partis. A priori, ils ne font pas deux cours de suite. Donc
avoir la patience, finalement, de me dire, c'est pas grave, s'il part le dernier, je vais attendre que tout le monde s'en aille.
Disons que ça peut être aussi se dire, c'est cool, il est avec ses copains. Personnellement, sur ce sujet, là, je ne me prendrais pas trop la tête et je continuerai, je discuterai éventuellement avec les autres parents ou je les regarderai s'amuser parce que ça me fait marrer. Et puis, il y a un moment, il y a le copain avec qui il s'amuse, qui part et puis on part tous ensemble, quoi.
Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de se mettre, nous parents, en colère comme ça ?
Alors, pourquoi on a besoin de se mettre en colère ? C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'adore dans la parentalité, c'est que nos enfants, en fait, viennent réveiller chez nous toutes nos fragilités et appuyer sur tous les boutons qui nous font péter des câbles.
Toujours.
Et nous pousser donc à grandir, en fait. Ils le font inconsciemment, hein. Ils ne le font pas consciemment. Mais donc, c'est des super occasions, justement, de mieux se comprendre, de mieux comprendre pourquoi cette situation nous met en colère et d'essayer de faire des petits pas pour l'être moins. Donc là, sur cette situation en particulier, ça dépend de chacun. Peut-être que toi, tu vas te mettre en colère parce que tu as l'impression que ton enfant ne te respecte pas. Peut-être d'autres vont se mettre en colère parce qu'en fait, ils sont super pressés et que ça les saoule d'être en retard. Peut-être que tu vas te mettre en colère parce que tu te dis que tu passes pour un mauvais parent auprès des autres. Donc, il y a plein de sujets sur lequel on peut, entre guillemets, travailler.
Mais en même temps, quand je me mets en colère, alors en colère, je hausse la voix, voilà, il m'obéit et il me suit. C'est le seul moment où finalement, il s'est arrêté, il a dit « Ok maman », il a mis ses chaussures et il m'a suivi. Alors pourquoi est-ce que je ferais autrement ?
Alors, tout dépend de ce qu'on dit « se mettre en colère ». En fait, tu aurais pu très bien aussi être ferme sans avoir cette émotion de colère. C'est-à-dire que tu aurais pu dire « Allez, maintenant, on y va, loulou, tu le prends dans les bras et tu pars. » Sans être véritablement énervé par lui. Mais on peut très bien être ferme et même, limite, moi, ce que je conseille, ce qui marche bien, c'est limite, c'est quand on sent que vraiment, là, il abuse, et machin, c'est de se mettre en colère avant d'être en colère. Alors, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas l'émotion. C'est-à-dire que, parce que si tu te retiens, tu sens que tu prends sur toi, à un moment, ça va exploser.
Oui, c'est la cocotte minute.
Voilà, donc ce n'est pas la bonne solution. Donc, ça vaut le coup, à un moment où de se dire, ok, non, en fait, là, ça ne me va pas, moi, il faut que je parte, etc. D'être ferme, de dire, bon, allez, maintenant, on y va. Ou même de jouer l'humour. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, par exemple, c'est que, alors, ça ne va pas trop se voir en audio, mais c'est-à-dire que je mime le parent ultra en colère, caricatural,
la grosse colère.
Le parent qui hurle et qui fait et qui sans son fait mais tu m'embêtes, j'ai pas quoi, avec les poings fermés, etc. Ce qui fait marrer l'enfant parce qu'il y a pas de son, etc. Il comprend que là je commence à en avoir marre. Ça détend aussi l'atmosphère et puis ça permet de faire passer des messages.
J'essaie, comme je t'ai expliqué depuis quelques mois, donc à mettre en place tous ces principes de parentalité positive. Et il y a un problème qui se pose à moi, et je voudrais te poser la question. C'est que j'ai l'impression souvent de ne pas être moi-même.
Ah oui.
En fait, j'ai l'impression de jouer un rôle avec mes enfants, un peu comme si je trichais.
Oui,
tu vois, comme si je me mettais en retrait, je masquais finalement mes émotions pour pouvoir avoir un côté un peu trop lisse.
Génial.
Et je voulais savoir si c'est normal et si... au bout d'un moment, en fait, ça devient juste naturel d'être un parent positif.
Alors ça, c'est super. Merci de me poser cette question. On ne me la pose jamais. Et c'est exactement
contente.
Ça. En fait, l'éducation positive, si on la prend telle qu'elle, et qu'on on applique les astuces, c'est-à-dire qu'on a lu que, je sais pas, quand un enfant est en colère, il fallait lui dire « je comprends que tu sens en colère » et je sais pas quoi, et qu'on le fait juste à appliquer l'astuce, en fait, ça marchera pas. Et c'est pour ça que nous, on fait du coaching, etc., parce que ça va complètement à l'encontre de l'histoire, c'est-à-dire que le dernier pas dans l'éducation positive, c'est d'appliquer les astuces. Mais en fait, le premier pas, c'est de comprendre notre enfant, véritablement le comprendre, véritablement aussi se comprendre pour pouvoir, pour que l'astuce derrière, en fait, soit naturelle. Parce que sinon, ça sonne faux.
Mais oui.
C'est-à-dire qu'on va lui dire « je comprends que tu sois en colère », alors qu'on ne comprend pas du tout, en fait. On se dit « mais pourquoi il est en colère ?» Donc, je te donne un exemple. Par exemple, il a écrit sur le mur. Ok. Donc là, tu peux te dire, bon, bah, j'applique l'éducation positive et lui dire, je comprends que tu aies besoin de dessiner, mais prends plutôt une feuille. Mais en fait, là, on n'y croit pas du tout, donc on est en colère et à un moment, on aura l'impression de s'être forcé à être gentil. Et du coup, le soir, au bout de la troisième truc, alors qu'on s'est forcé quatre fois à être gentil dans la journée, on va exploser.
C'est ça, c'est que ça nous donne encore plus
bien
de pression,
sûr.
En fait.
Donc en fait, c'est pas du tout la bonne manière de faire. Ça va complètement à l'encontre parce que on fait que nous, ravaler nos sentiments, jouer un rôle. Et si on arrive à se mettre dans cette position et à prendre ce recul, déjà, on va être moins énervé par la situation.
Mais comment est-ce qu'on arrive à prendre ce recul qui est finalement faire un travail sur soi avant tout, quand moi je te dis, voilà, j'ai mon travail, les transports, les courses, le couple, j'arrive le soir à la maison et je me dis, bon alors il faut être un parent positif. J'ai l'impression en fait que je me rajoute
une pression de fou.
Une nouvelle couche de cette fameuse charge mentale dont on parle.
Complètement. Donc nous, c'est pour ça qu'en fait, pour gérer la colère de ton enfant, on va d'abord passer par toi et comprendre ta propre colère. Parce que si t'es, pour toi, t'es énervé contre toi-même quand t'es en colère, c'est très compliqué d'accepter que ton enfant le soit, puisque c'est un truc que tu ne te permets pas à toi. Alors que si toi, tu arrives à faire un travail sur toi, tu vas comprendre pourquoi, par exemple, toi, tu es en colère, donc ton mari est sur le canapé pendant que toi, tu es en train de tout faire, ça peut t'énerver, ok ? Donc moi, par exemple,
ça peut,
ouais. c'est un truc, moi, qui m'énervait, où j'ai fait un travail sur moi, donc c'est-à-dire que j'ai fait du dev perso, ou dans nos coachings, c'est la même chose, où je vais comprendre, mais pourquoi en fait, ça m'énerve qu'il soit sur le canapé ? En fait, ça m'énerve parce qu'il se repose et que moi, j'aurais bien envie aussi de me reposer. Et finalement, est-ce que c'est parce que moi-même, je ne m'autorise pas à me reposer ? Est-ce que moi, je n'aurais pas droit non plus de me foutre dans le canapé et me dire...
Mais si tu le fais, c'est lui aussi, alors qui est-ce qui va faire ce qu'il y a à faire ?
Alors, par exemple, lui, donc là, en l'occurrence, c'était parce que je préparais le repas. Lui, s'il était tout seul... Il ne préparerait pas le repas comme je le fais. Il prendrait une pizza, il me la foutrait dans le four. Il ne se prendrait pas la tête. Et finalement, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas une pizza et me foutrais dans le four ? Donc, soit c'est parce que, en fait, moi, j'ai envie de bien manger. Donc, en fait, je vais me dire, non, mais là, si je m'active au fourneau, ce n'est pas parce que je veux lui faire plaisir au machin, c'est que moi, je veux bien bouffer. Donc, c'est OK. Soit je me dis, non, mais en fait, je n'ai pas envie de m'activer au fourneau. J'ai envie d'être tranquille sur le canapé. C'est plus important que bien bouffer pour moi. Et ben, je me mets tranquille dans le canapé et je foutrais une pizza dans le four, par exemple.
Donc, en fait, on s'écoute pour essayer de relâcher un peu la pression interne qu'on a en tant que maman.
Ouais, exactement. On comprend ses besoins, on comprend ce qui nous met en colère, on est plus indulgent envers soi-même, on s'accepte plus tel qu'on est avec
nos
pardons. Voilà, exactement, nos pardons. Et du coup, si on est plus indulgent envers nous-mêmes, on va l'être plus envers les autres. Et souvent, en fait, quand on est très en colère, c'est parce qu'on donne beaucoup, on sacrifie beaucoup, et on attend que les autres fassent eux-mêmes,
oui,
ou soient
sûr.
Reconnaissants, etc. C'est un peu l'histoire...
C'est comme ça dans les relations humaines, finalement. Voilà. C'est pas qu'avec nos enfants.
Exactement.
Hein. Bien sûr.
Donc voilà, faire un peu les choses pour soi, être un peu égoïste, ça permet aussi d'être moins énervé contre les autres. Donc tout ce grand travail...
C'est énorme, en fait. Ouais.
C'est énorme, mais ça prend pas forcément de temps, parce qu'on se dit, ah, colossal, pas du tout. Parfois, en 15 jours, 6 semaines, avec 10 minutes par semaine où on se pose sur une vidéo, on réfléchit à quelques questions, où on se fait accompagner, etc. Les choses peuvent évoluer assez vite.
Tu parlais de couple tout à l'heure. J'ai des amis qui se sont séparés parce que le papa était un fervent partisan de l'éducation positive et sa femme, non. Et en fait, il m'a dit « les injonctions de ma femme ont tué mon couple ». Est-ce que c'est possible, tu crois, d'avoir des idées d'éducation divergentes dans un couple ? Donc, il y en a un qui veut suivre l'éducation positive et l'autre non, et qu'on y arrive à élever nos enfants quand même ?
Alors, si c'est possible,
ouais.
Oui. Si c'est pas évident,
non, c'est clair.
Évident. Mais oui, je pense que c'est possible. Ça demande là aussi, en fait, de réaliser. Donc toujours ces prises de conscience. Voilà, il faut parfois lire le bon bouquin ou rencontrer la bonne personne. Arriver à prendre conscience que l'éducation traditionnelle, enfin que ça peut être une chance pour notre enfant d'avoir les deux. Et qu'en fait, peut-être que nous, dans ce cas-là, notre rôle va être justement d'armer notre enfant pour réussir à prendre de la distance par rapport à, je dis n'importe quoi, le conjoint qui le punit, etc. Et que l'enfant ait suffisamment de recul pour se dire « Ok, il me punit, c'est parce qu'il est énervé en fait, c'est parce qu'il est en colère.
Ouais, » C'est beaucoup demandé à un enfant quand même là.
Bah, parfois, moi je coach pas mal mes enfants.
Ouais.
L'autre jour, par exemple, la maîtresse le forçait à dire pardon. Et ben, il me racontait la scène et en gros, il a répondu à la maîtresse, mais ça sert à quoi de dire pardon si c'est un faux pardon et que je vais pas le dire, est-ce que je peux pas attendre pour dire un vrai pardon et là, ça va pas venir du cœur. Donc voilà, il va se défendre par rapport à ça. Donc dans l'éducation positive, même si j'aime pas trop mettre tout dans des cases, mais forcer un enfant à dire pardon, par exemple, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que du coup, le pardon, il n'est pas sincère.
On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec jouer un rôle, et ça ne marche pas de toute façon.
Voilà. Et c'est un peu te soumettre, quoi. Tu dis pardon, tu t'assois, tu t'agenouilles, tu dis...
Complètement.
Et ce n'est pas très agréable.
Donc en fait, on prend le pari que notre enfant est suffisamment intelligent pour faire le distinguo entre deux types d'éducation qu'il peut recevoir,
ouais.
Et quand même réussir à creuser son sillon et à faire son chemin.
Oui, complètement. Et en plus, ça peut être une force, parce que du coup, il n'aura pas toujours des gens bienveillants autour de lui. Savoir se protéger parfois de l'injustice ou de la colère du parent, c'est une super force.
Thank you. Tu sais qu'il y a des parents qui ont peur un peu de ce principe d'éducation positive. Ça les fait reculer parce qu'ils ont l'impression que ça va faire des enfants tyrans, des enfants rois. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui ne veulent pas, absolument pas, passer par l'éducation positive par peur ?
Ok. Alors, déjà, voilà, il faut revenir un peu sur l'éducation positive, dans le sens où, voilà, c'est pas appliquer que des astuces. Pour moi, c'est aussi, voilà, travailler sur soi pour tout simplement prendre les choses avec plus de sérénité. Et quand on est plus serein, on réagit avec plus de justesse. Alors, l'éducation positive, c'est pas le nombre de limites. C'est-à-dire qu'on pense que l'éducation positive, parfois, c'est l'éducation laxiste, où il y a moins de limites. Les limites dépendent de chaque famille. Elles sont pas dictées, les règles ne sont pas dictées par l'éducation positive. Dans certaines familles, on regarde la télé, dans d'autres, on regarde pas la télé. C'est pas éducation positive ou non éducation positive, mais c'est la façon dont on va faire respecter cette règle qui va être plus positive. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer la règle en lui disant « tu fais ça, sinon t'es puni », on va essayer de le faire de façon différente. Donc déjà, c'est pas à confondre avec le laxisme, parce que laxisme, il y a pas besoin de lire un bouquin, il y a pas besoin de travailler sur soi, on permet tout et puis c'est terminé.
Donc l'éducation positive, voilà. C'est pas se dire je dis jamais non à mon enfant.
Non, surtout qu'en fait, ce qui est super important et ce qui est pas mis en avant beaucoup entre guillemets par l'éducation positive telle qu'elle est exposée aujourd'hui, c'est que nos besoins à nous sont tout aussi importants que ceux de nos enfants. Il faut surtout pas faire privilégier les besoins de notre enfant à tout prix sans écouter les nôtres. L'éducation traditionnelle est plutôt je privilégie les besoins de l'adulte. On fait comme ça parce que moi j'ai décidé de tout l'emploi du temps et vous suivez.
Ils suivent. Voilà.
Voilà. Mais faut pas tomber dans le travers inverse. Qui est de dire ah ben voilà il faut que mon enfant écrit pas, il faut que mon enfant soit toujours content, il faut que
je m'adapte. Et du coup, je m'adapte à mon enfant. C'est plus lui qui s'adapte
à moi. Et puis,
à un
moment, bah, on pète un câble parce qu'il y a un moment où on n'a plus de vie, quoi. Et on peut pas, si on n'a plus de vie, si on n'est pas épanoui, nous, on ne peut pas être bienveillant avec notre enfant. Donc, c'est trouver un juste milieu entre les besoins de mon enfant et mes besoins.
Moi, je me pose une question. Donc, comme je te disais, j'ai donc deux enfants, 12, 6. Je me mets tardivement, je dirais, à l'éducation positive. J'ai lu des livres, je me renseigne. Parfois, quand je prends le bus, je vois des femmes enceintes qui sont déjà avec leur manuel d'éducation positive. Alors, je me dis, 12 ans, 6 ans, est-ce que c'est fichu pour moi, déjà ? Est-ce que c'est trop tard ? Ou est-ce que je peux rattraper le coup, quand même ?
Alors, bien sûr, évidemment que c'est pas trop tard. C'est vrai que c'est intéressant en fait, ce qui est intéressant dans lire des bouquins d'éducation enceinte, c'est juste que dans les bouquins d'éducation, plus que la façon dont il faut se comporter, ce qui est intéressant, c'est qu'on va comprendre qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant à quel âge. Et c'est souvent ce qui nous manque. C'est-à-dire que moi, par exemple, à 2 ans, à 3 ans, je pensais que ma fille pouvait s'habiller toute seule et que c'était normal qu'elle s'habille toute seule. Puis en fait, au bout du troisième enfant, on se rend compte que non, mais en fait, à 3 ans, il est encore tout petit. Voilà. Et donc, évidemment que il est jamais trop tard pour changer notre relation avec notre enfant. Mais que ce soit à 10 ans, que ce soit quand notre enfant aura 20 ans ou 30 ans, il n'est jamais trop tard pour faire évoluer nos relations. Et il n'y a pas non plus à se flageller parce qu'on s'est dit qu'on aurait dû se comporter autrement à l'époque. On s'est comporté d'une certaine manière parce qu'on avait un certain niveau de connaissance. Il y a des choses qu'on ignorait. Ça n'a pas que du mauvais aussi. Notre enfant, il a grandi avec ça. Voir aussi que notre parent peut évoluer et changer,
oui,
c'est quand même juste génial. D'avoir ça comme modèle, de se dire bah, mon parent, peut-être que je dis n'importe quoi, il était assez en colère à l'époque et maintenant il l'est moins, bah, comme image, dire que oh, bah, en fait on peut évoluer, on peut à une époque être en colère et l'être moins et devenir plus serein, c'est quand même une super aussi image qu'on peut renvoyer à nos enfants.
Ça, c'est clair. Moi, je me pose une question. Voilà, c'est si je ne le mets pas en place, cette parentalité positive, donc si je ne l'ai pas mise en place déjà, si j'essaye de la mettre en place, si je ne la mets pas totalement en place, en fait, je me pose juste une question, est-ce que ça fait de moi une mauvaise maman ?
Non, ça ne fait pas de toi du tout une mauvaise maman. Et encore une fois, en plus, l'éducation positive, ce n'est pas juste appliquer des astuces. Il y a des gens qui n'appliquent pas les astuces de l'éducation positive et qui donnent une super éducation à leurs enfants parce que c'est le fond qui est important. C'est aussi voilà, le sentiment que tu as envers tes enfants et toutes ces intentions. Mais après, je trouve que ça vaut le coup juste de faire des petits pas. Ça vaut le coup d'essayer de faire mieux toute sa vie et ça sera jamais, on n'arrivera jamais à un moment où on se dit « Ah, c'est bon, ça y est, là, je suis au top. C'est nickel. » Je pense que ça vaut le coup d'évoluer durant toute sa vie vers plus de sérénité dans nos relations aux autres, que ce soit nos relations avec nos enfants, avec nos parents, avec quiconque. Et c'est pas parce qu'on on avait des relations plus compliquées à un moment que ça fait de nous une mauvaise personne. Je pense que tout le monde a un immense cœur, tout le monde est à plein d'intention positive et tout le monde évolue à son rythme. Voilà.
Alors Charlotte, merci beaucoup. Merci de m'avoir coachée et merci de m'avoir parlé de maman à maman. J'ai l'impression que si j'avais qu'une chose à retenir, ce serait le mot indulgence. Indulgence envers moi-même d'abord et puis envers mes enfants. Merci beaucoup. Merci à Charlotte Ducharme, auteure du livre de coaching « Cool Parents Make Happy Kids ». Vous pouvez retrouver tous nos dossiers et nos témoignages sur l'éducation bienveillante et positive sur notre site parents.fr. « Galère sa mère », c'est un podcast de parents que je vous ai présenté, réalisé par Solène Moulin. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des cœurs, des étoiles sur Apple Podcasts. Écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta de parents ou le forum de parents.fr. On a hâte de vous lire. Alors à très vite pour le prochain épisode.